La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, on va prendre le budget présenté hier par Mme Freeland pour le décortiquer. On va faire ça en deux blocs ce matin. Pierre-Yves, évidemment, est avec nous.
Oui.
Il a été séquestré hier dans le fameux huis clos. Pour prendre connaissance de la brique, c'est quoi, 400 quelques pages?
Oui, en français, il y en a plus, hein? Parce qu'il y a plus de mots en français pour dire les mêmes choses. Donc oui, la version française était plus longue.
OK, on va commencer là, par le déficit. Oui. C'est quoi le plan de match du fédéral là-dessus?
Plan de match du fédéral et déficit, ça va pas ensemble, mais on va essayer. Ce qui est spécial, puis ce qu'on a remarqué hier, c'est que là, on a un déficit qui est près de 40 milliards de dollars, qui va se résorber de moitié sur 5 ans, mais on va encore avoir un déficit monstre de 20 milliards. On est rendu habitué avec les libéraux d'avoir des déficits monstres, tellement qu'on est habitué. Et donc, la stratégie, c'est de l'amortir grâce à la croissance des revenus budgétaires qui va passer de 498 milliards à 586 milliards éventuellement. Donc, on se fie sur la croissance économique, la hausse des taxes et des revenus, et on veut faire de l'attrition, hein, au gouvernement. On a dit, il y a des fonctionnaires qui vont partir.
5 000
l'attrition. Donc, ça, c'est le plan. Maintenant, parlons du striptease séparé du gouvernement là-dessus. C'est que, dans le fond, on avait bien peur qu'il augmente encore le déficit. Et eux, ils se sont dit, bon, là, on a tous montré nos belles mesures fiscales pour aider le monde, puis bien paraître, puis acheter des votes. Là, quand on présente le budget, là, ça prend une affaire, ça prend une mesure qui va contrecarrer le déficit. Et c'est là qu'ils sont allés chercher espèce de lapin du chapeau de dire on va taxer les riches. Tu sais, pas si je te dis on va taxer les riches, ça représente un faible pourcentage du Canada. Tu vas dire OK, on va taxer les riches, d'accord. Puis là, tu te sens pas riche, donc tu dis ah, parfait. Mais c'est quoi taxer un riche pour le fédéral? C'est pas vraiment ça, taxer les riches. C'est qu'on va taxer plus des gens qui vont faire éventuellement dans leur vie un gros gain dans une année. Puis là, je vais te mettre en contexte.
Donne-moi un exemple clair de qui, ce matin, se trouve concerné par ça.
T'as une personne qui a travaillé toute sa vie, puis qui a tout mis sa retraite dans son plex. T'sais, cette personne-là n'a pas de régime de retraite, n'a pas d'avantages sociaux, travail autonome, puis tout ce qu'il y a là, c'est son plex qui aujourd'hui vaut 1 million de dollars. Cette personne-là a payé son plex, disons, 225 000. Elle a un énorme gain en capital de valeur qui, présentement, est imposé à 50%, c'est-à-dire que la moitié n'est pas imposable, parce que c'est du gain. Jusque-là, on suit tout le monde, là, des centaines de milliers de dollars en gain capital, c'est moins imposé que du revenu. Là, on augmente l'imposition du gain qui dépasse 250 000. En disant, les riches canadiens, c'est méchant loup-garou. C'est aussi Jean-Claude, qui a un quintuplex locatif à côté de son condo depuis 30 ans, 25 ans. Alors, l'année que Jean-Claude va vendre son plex avec un énorme gain, le gouvernement va lui dire, « Sais-tu quoi, Jean-Claude, t'es un riche cette année et tu vas payer plus d'impôts sur ce qui dépasse 250 000 de gains. » Là, le gouvernement fédéral me répond, « Oui, mais regarde, s'il y a un couple, ben, c'est deux fois 250 000, c'est moins pire. » Donc, je dis, « Oui, mais dans un couple, il y en a un qui meurt des fois. » Qu'est-ce que vous allez faire avec le 250 000 de la personne qui est décédée? L'autre personne ne vendra pas le plex parce que l'autre est morte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu sais, c'est là l'enjeu. C'est qu'on vise des riches en disant les riches qui font du gros gain de 250 000 et plus par année sur des placements, on va les taxer.
Une question.
Oui.
Est-ce qu'avec une mesure comme celle-là, ça peut faire en sorte de ralentir la construction de logements?
Ça va plutôt changer la façon de disposer tes biens. Je répondrai à Mme Freeland, mettons que je suis multimillionnaire, puis j'en ai des placements hors REER, hors CELI qui sont imposables sur le gain. Puis que je sais que j'ai 250 000 de gain maximum pour avoir le taux d'imposition un peu plus faible sur le gain. Mais je vais vendre au maximum pour générer 249 000 de gains. Je vais générer des pertes sur certains placements. Je vais fabriquer des pertes en vendant des titres de façon, disons, dans le temps, pour optimiser ça. Alors, sa mesure, elle pense aller récupérer de l'impôt avec ça, vrai, pour des très, très grands gains de gens qui vendent des affaires. Mais c'est pas vrai qu'on taxe les riches, là. On taxe pas les actifs des riches canadiens. On taxe des transactions dans une année qui sont trop grandes en volume. C'est ça qu'on fait.
OK, puis ça, ça inclut, là, tu parles d'immeubles, mais ça inclut les placements, puis ça inclut le chalet, là, éventuellement.
Ça inclut tout ce qui est imposable. Donc, on enlève tout ce qui est pas imposable. Ta résidence principale est pas imposable.
OK.
Ton premier 1 250 000 quand tu vends une entreprise, c'est pas non plus imposable maintenant. Ça a passé d'1 million à 1,250 million. On n'impose pas non plus de bon ton CELI, ton REER, etc. Et donc, on dit, ce qui est hors mesure normale, on va l'imposer davantage. Et là, évidemment, la main aurait pu se lever du côté des entrepreneurs pour dire, écoutez, là, nous, on vend des business. Là. Le gain en capital est 50% sur ce qui dépasse le million, mais on vend des business privés. Ça veut dire que vous venez d'augmenter nos impôts sur nos business privés qu'on va revendre? Là, on me dit, non. Parce qu'on va mettre une nouvelle patente à gosse en place qui va se faire sur 10 ans. Les entrepreneurs vont gagner le droit d'exonérer de cette nouvelle mesure-là jusqu'à 2 millions de dollars de gains sur la vente d'une entreprise, en plus du 1 250 000, en cumulant ce gain-là sur 10 ans. C'est compliqué pour monsieur, madame, tout le monde.
Ben, c'est parce que là, quelqu'un qui dit écoute ce matin va se dire la chose suivante. Ouais. Moi, j'ai pas d'immeuble, puis moi, j'ai pas d'entreprise, puis que les entreprises contribuent davantage, puis que les gens qui font de l'argent en vendant des immeubles payent plus, c'est bien correct.
OK, je vais te mettre ça à l'envers.
J'ai entendu des analystes dire ça hier.
OK, je vais mettre ça à l'envers. C'est correct, c'est vrai, on peut décider ça. Et des gens qui vendent leur maison, demandez pas. Puis qui tombent à 62 ans, sont un couple, puis ils ont un pactole ensemble, puis c'est leur retraite, tu comprends? Il y a une portion en REER, une portion en CELI. Et ces gens-là, des fois, il y a des gens qui décèdent. Ben, quand tu décèdes avec des placements en REER, puis tu es obligé de liquider tous tes placements au moment de ta mort, tu as un gain sur tes placements. Si tu les as pas vendus, tu n'as pas réalisé ton gain dans le passé, tu peux atteindre ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'atteint pas, c'est pas le riche qu'on frappe, c'est la personne qui fait un gros gain dans une année. Même si on dit que ça touche à un certain pourcentage des Canadiens, je suis tanné que le gouvernement fédéral parle d'un riche comme un revenu annuel une seule fois. J'aimerais ça qu'on me dise, Pierre, il y a des gens qui valent 30 millions puis que leur revenu annuel est bien ordinaire, puis qu'on arrête de qualifier riche une personne qui a un revenu annuel à cause d'un gain en capital ponctuel une fois dans sa vie, t'sais.
OK, on va s'arrêter pour une pause, si tu veux bien, puis on va revenir après, puis on va parler entre autres des mesures pour améliorer la construction de logements. Tous ces programmes qui ont été annoncés, là, allant de nourrir les enfants à l'école, les médicaments, bref, on sait, la liste est longue, c'est 40 milliards ou 53 milliards plutôt de dépenses de plus pour les prochaines années.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Bon, alors Pierre-Yves est avec nous pour parler de ce budget fédéral, le plan pour la construction de logements.
Il y en a beaucoup, mais tu sais, on se souvient qu'il y a eu le fameux RAP qui est plus élevé. Maintenant, on peut retirer 60 000. Puis je dis, vous faites plein de mesures pour le logement. En même temps, vous trouvez pas que c'est improductif? J'ai posé la question.
Est-ce que c'est une mesure qui aide vraiment les Canadiens à moyen terme ou c'est beaucoup plus une mesure électorale?
Merci pour la question. Et vous avez raison. Que la chose la plus importante pour nous, c'est de construire.
Ça, c'était sa ligne. Oui, on l'avait apprise.
Fallait la placer.
Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit, vous augmentez l'aide aux acheteurs qui veulent acheter, donc vous donnez du pouce à la demande, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, pour compenser ce problème, on est allé construire beaucoup ou dire qu'on va construire. On dit qu'on va rendre disponible 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Bon, on s'entend pas. C'est pas le gouvernement fédéral qui va bâtir des logements. C'est qu'on met des mesures en place, puis on se dit, ça va générer la construction de logements. Et je te donne des exemples. Hier, on a fait un paquet de mesures tellement qu'on n'avait pas le chiffre. Là, on parle de 8,5 milliards de nouvelles mesures sur le logement. C'est pas clair pour les journalistes parce qu'il y a plein d'affaires mélangées, il y a des redites. Mais en somme, je te donne un exemple. On dit qu'on va libérer des terrains de Post Canada pour construire des logements. OK, Post Canada a sûrement des terrains pour prévoir le futur, puis on dit on va convertir ça en logement. On dit qu'on va prendre des édifices fédéraux qui sont ciblés. Puis qu'on va regarder lesquels on peut vider, lesquels on peut optimiser, puis on va mettre 1 milliard là-dedans pour réfléchir à ça, pour construire des logements, pour convertir des immeubles, dans le fond, de bureaux à commerciaux ou de bureaux en logements. On va donner de l'argent aussi pour des terrains publics. On dit qu'on va même mettre une taxe sur les terrains vacants. Mais la taxe sur les terrains vacants, quand on regarde dans le budget, comment on va la mettre en place? On ne sait pas encore. Évidemment, on dit ça. On va taxer terrain vacant, mais là, on va jouer dans la cour des municipalités, des provinciales. Donc, il y a ça aussi, une espèce d'interventionnisme. Donc, on vise beaucoup, beaucoup des gros chiffres de logements, logements supplémentaires ici et là, 2 millions de nouveaux logements venant d'être ajoutés aux 1,87 logements, millions de logements. Mais on n'a pas, évidemment, de marteau dans les mains, puis on n'a pas non plus de projet. On dit qu'on va aider. Puis une autre mesure qu'on fait, c'est on va bâtir des cahiers de construction clé en main que toi, comme entrepreneur, tu vas pouvoir développer.
Mais je voudrais donner un exemple de ça. Notre collègue Luc, oui, ancien maire du Plateau, a vu des projets comme ça naître de logements abordables à partir d'Ottawa, puis à partir de Québec, puis dans certains cas, la ville est impliquée aussi dans ça. Mais le problème, c'est que ça prend tellement de temps les développer,
oui,
qu'ils tombent hors programme. C'est-à-dire que si tu avais prévu tant par unité de logement, il y a un an ou un an et demi, le faire maintenant, ça va te coûter plus cher, ce qui fait que le programme marche pas, puis qu'il y a des projets qui ne lèvent pas. Tu sais, l'argent, on l'annonce à coups de milliards pour les prochaines années, mm-hmm, mais dans les faits, est-ce qu'on est capable de le faire?
Oui, puis on donne des milliards aussi, ou des millions pour les infrastructures, pour aider au développement des logements. On dit on va aider, j'ai bien aimé ça, la clause tramway. C'est que on a dit dans le fond, si vous voulez avoir de l'aide fédérale pour des infrastructures pour aider au développement de secteur, va falloir que vous éliminiez les stationnements obligatoires autour d'infrastructures avec les logements. Par exemple, si vous êtes un promoteur et que la ville vous imposait avant d'avoir tant de stationnements par logement, ben si vous êtes dans le rayon du nouveau projet et que vous voulez être subventionné par le gouvernement, ben vous pourrez pas obliger les gens à avoir des stationnements. Donc, ça aide la densification, c'est un peu ce qu'on comprend. Il y a beaucoup de mots logement dans le budget, puis il y a le mot autochtone aussi. T'sais, on pèse sur des points importants, mais ce qu'on retient, c'est qu'on est allé donner de l'argent aux gens qui veulent acheter en disant on va vous donner des avantages fiscaux, c'est l'IAP et augmentation du RAP. Puis on essaie de contrecarrer les gens qui ont la demande. On n'a pas plus de maisons, on n'a pas plus de logements au Canada demain matin, là. Donc on a encore un problème. Puis on peut pas le régler au gouvernement. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va peinturer le budget. 20% du budget en page, là, c'est le logement. On va peinturer le budget. Mais jamais M. Trudeau va être le contracteur de ces projets-là. Donc, on veut mettre en place des ouvertures, donner un signal, je pense. Ça, c'est la chose que je peux donner. Quand le gouvernement dit « on va regarder nos terrains vacants puis on va s'arranger pour vous les fournir », ça donne une idée que le gouvernement commence à comprendre le bouton panique sur le logement.
OK. Et juste conclure sur l'ensemble des programmes qui ont été annoncés, mmh, qui, disons, on a vu le striptease, là, oui, puis on le sait, là, pour ce qui est, par exemple, nourrir les enfants qui ont, oui, faim dans les écoles, dentaire, système de régime d'assurance dentaire, médicaments, mmh, là, contraception, l'insuline, oui, pour les diabétiques. Là, ça veut dire qu'ils arrivent avec le chéquier dans à peu près tout ce qui est de programme des provinces, là.
En fait, c'est que tu fais un budget avec 40 milliards de déficit à peu près, puis tu viens dire, je vais aller jouer en plus dans les enveloppes budgétaires dans lesquelles je suis pas impliqué, c'est les provinces. Donc, c'est vraiment, je te parlais de ça hier, l'enjeu qu'on remarque, c'est que le gouvernement fédéral, en se mêlant des provinces, ajoute de l'administration, ajoute de la complexité et va jouer dans l'enveloppe budgétaire provinciale. Donc, le vrai défi ici, c'est de dire au fédéral, arrêtez-moi ça, donnez-nous le chèque, puis on va le mettre dans notre programme qui existe déjà. Un bon exemple que je te donne, qui est du gaspillage d'encre, là. Quand t'as des logements au Canada, faut que tu démontres au fédéral maintenant, dans certaines circonstances, que ton logement, il est pas vacant. Donc, faut que tu remplisses un formulaire. Faut que ton comptable remplisse le formulaire quand c'est par un INC, par exemple. Puis là, faut que tu payes des frais pour montrer à l'administration publique que ton logement est pas vide. Entre toi et moi, là. Tu sais, mon logement est pas vide. Mais il y a aussi des mesures, là, des micro-mesures, comme d'habitude. On va taxer le vapotage, taxer la cigarette, 4 piastres de plus, le carton de cigarette. Si t'es pompier volontaire, Paul, dans quelques années, tu auras droit à 900 $ de plus par année, qui va vraiment changer ta décision de devenir pompier volontaire ou non. Et j'ai remarqué aussi tout ce qui est très politique là-dedans. T'sais, on donne de l'argent au musée de l'Holocauste et contre l'islamophobie. Donc, on va chercher dans le conflit israélo-palestinien un petit signature budgétaire pour dire on a pensé à vous puis on pense à tout le monde au Canada. Donc, tu vois jusqu'où on va dans le budget.
Est-ce qu'en terminant, c'est vrai que c'est un budget pour les jeunes? C'est vendu comme ça.
Ben, en fait, c'est qu'on donne des avantages fiscaux aux jeunes acheteurs en leur faisant miroiter.
Même les diplômes, par exemple, les bourses.
Puis l'avantage dentaire. On fait croire aux jeunes que ça va les aider. À court terme, ça peut être vrai. À très, très court terme, là. T'achètes ta maison demain, tu vides ton réel, t'as l'impression d'avoir du cash. Mais à long terme, le budget est le même, la dette publique est la même, le déficit est le même, puis c'est la même population, et le jeune sera vieux. Donc, quand le jeune, dans quelques années, sera vieux et paiera la facture de ce qu'on est en train de faire, ah, il aura eu une maison peut-être plus facilement pour 2 mois dans sa vie, mais il va payer la facture plus tard.
Merci, monsieur. Merci beaucoup.